L'émission de Francis Barrault sur la randonnée et la découverte de sites extraordinaires, c'est maintenant et c'est sur les ordres de Radio Galaxie 98.5. Aujourd'hui, je vais vous parler de la Garonne. Ce cours d'eau ressemble tantôt à une dame capricieuse, tantôt à une fille paisible. À chaque contour, il y aurait une histoire ou une légende à raconter. Et oui, découvrir le paysage pyrénéen, ce n'est pas que les sommets, ce ne sont pas que les lacs, ni les canyons, ni la neige. C'est aussi les fleuves et les rivières qui font le charme de nos vallées. Née des glaciers de la Maladeta en Espagne, la Garonne disparaît au Trou du Taureau, à 2020 mètres d'altitude, pour réapparaître au Gouey de Jouéou, à 1407 mètres. Mademoiselle Garonne peut s'orgueillir d'être à sa source le fleuve français le plus élevé. C'est le spéléologue et scientifique Norbert Casteret, grâce à ses célèbres expériences de fluorescence, qu'il prouvera que la vraie source de la Garonne, du moins celle qui a le plus de débit à son départ, est le Trou de Taureau. Il existe, au fin fond du Val d'Aran, sur le plat d'Adette, de nombreuses sources qui donnent vie à la Garonne, mais d'un débit bien moins important que le Trou du Taureau. La Garonne, c'est aussi un fleuve long de 650 km. Les sautes d'humeur de demoiselles se sont traduites par de dramatiques inondations. En 1837, elle pénétra, dévasta et viola les tombes du cimetière de Fosse. En 1875, elle emporta le quartier de Saint-Cyprien à Toulouse. D'autres inondations qui gomma le paysage ont eu lieu en 1930, 1958, 1977 et bien d'autres. Donc après sa naissance, le cours d'eau s'engage d'abord dans le Val d'Aran, cette vallée pittoresque qui depuis le Moyen-Âge jusqu'à Napoléon fut tour à tour aragonaise puis française. Capricieuse et sauvage, demoiselle Garonne continue sa course pour déboucher, après quelques passages méandreux, dans une vaste trouée vers le village de Fosse. C'est le premier village français en venant d'Espagne. Elle continue de prendre de l'ampleur jusqu'aux portes de Saint-Béat. Là, elle s'adapte, se tortille, pour passer l'étroit défilé que les Romains baptisèrent le passage du Loup, et qui devient la forteresse de Saint-Béat pour combattre l'hérésie. Surnommée aussi la clé de France, elle fut par la suite la patrie du maréchal de France, M. Gallieni. Les montagnes de Saint-Béat s'enorgueillent de posséder un marbre dont les Romains déjà surappréciaient le gain. Sur le flanc sud du Cap d'Edmund, la cicatrice d'une ancienne carrière rappelle la belle épopée du marbre qui voyageait sur la Garonne en radeau jusqu'à l'océan avant de partir en bateau sur Paris, l'Italie et bien d'autres lieux. D'ailleurs, une légende parle d'une colonne 30 mètres qui aurait été charriée jusqu'à Rome en l'an 113 après Jésus-Christ, dont il reste dans la carrière une cheminée verticale de 30 mètres, rappelant l'emplacement de la colonne. C'est qu'une légende. Cette carrière, on la voit quand on prend le col de Manté, juste à la sortie de Saint-Béat sur la gauche. Si vous poussiez vers Chaumes ou Marignac, sur votre droite, nous apercevons aussi l'élégant pic du Gard, aux sept pointes calcaires de plusieurs centaines de mètres. Il fut longtemps un lieu de culte. Une légende parle du dieu Garus, dieu de l'amour et de la fécondation. Depuis l'époque romaine à peu près, voire même avant, parce que c'est peut-être des rites païens tout ça. Et donc jusqu'au XIXe siècle, les gens de la vallée faisaient une procession jusqu'au sommet, dans l'espoir d'un mariage dans l'année ou de l'espérance, on va dire, de la venue d'un enfant. Revenons à notre Garonne. Après avoir happé quelques affluents, tels que la Pique venant de Luchon, ou l'Ours aussi venant de Mauléon-Barousse, la Garonne passe entre Barbazan et la belle cité de Saint-Bertrand de Comminges, une cité romaine à visiter absolument. Puis elle continue de s'enfuir vers la plaine en passant sous Montrégeau, Saint-Gaudens, Saint-Martory et bien d'autres villages, bien sûr. Notre chère Garonne, pour elle, la route est longue encore, jusqu'à Toulouse et puis l'océan. Vous savez qu'elle se jette après Bordeaux. Mais ceci est une autre histoire. À savoir aussi que la Garonne a appartenu pour un temps au radelier. C'est d'ailleurs un métier qui a disparu. Vous savez, ce sont ces hommes munis de perches avec un harpon et chaussés de souliers à crampons qui sautaient d'un rondin à l'autre, permettant ainsi le flottage d'arbres qui partaient d'une série en principe pour arriver sur la rive quelques dizaines de kilomètres plus bas. Ces hommes étaient appelés d'ailleurs les marins de la montagne. Je vais vous parler donc de Norbert Castoret. On en a parlé au début parce que c'est lui qui a découvert la vraie source de la Garonne avec ses expériences fluorescentes. Mais cet homme, c'était un grand aventurier. Je vous en parle aussi parce qu'il est du village de Saint-Martory. Donc c'était un homme qui aimait le monde souterrain. Il était aussi un écrivain, reconnu bien sûr, parce qu'il a fait plus de 35 livres à son actif à peu près. Donc il est né à Saint-Martory le 19 août 1897 et il est décédé le 20 juillet 1987. Pour mieux cerner l'homme, je dirais, voici une de ses habitudes. Été comme hiver, écoutez bien, il plongeait de plus de 10 mètres de haut dans la Garonne, vers Saint-Martory, ou du pont, ou de falaise qu'il y avait dans les alentours. Vous voyez quelle athlète c'était. Mais bon, je ferai un jour une émission consacrée à Norbert Castoret. Bon, vous voyez, il y a tant à dire d'une rivière. On peut en raconter des histoires.